Bonjour, bienvenue dans les Murmures de la Terre. Aujourd'hui, pour ce jour de gala, je vous propose de sortir un peu de l'ENS de Lyon et de venir explorer les lieux qui ébranlent notre rapport au monde et réinventent nos liens avec ses habitants. Et comme la Terre, ce n'est pas que la planète avec un grand T, mais aussi les terres que l'on habite et parcourt, vous entendrez la voix de celles et ceux qui décident de partir vivre ailleurs, de s'installer pour un temps dans des contrées lointaines. Pour le premier reportage de l'émission, je vous emmène prendre un brunch, et si vous pensez que ce n'est pas vraiment l'heure de manger, tant pis, je vais quand même essayer de vous ouvrir l'appétit.
Oui.
Alors, le brouillé, les tartes arrivent. Derrière, il y a des navets glacés, vous pouvez voir le voisin de l'Université. Il y a du caviar d'aubergine. Alors, tu peux le prendre, il est dans le frigo de droite. Tu peux mettre une cuillère à soupe
dedans. Alors, attends, tu les cuillères à soupe ?
Alors, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Lucie, la maîtresse de maison des petites cantines de Vaise. Elle organise les repas de ce restaurant très particulier, elle fait les comptes, prépare les recettes avec les convives, bref, elle s'occupe de gérer toute une petite communauté gourmande. En septembre dernier, une amie m'a proposé d'aller déjeuner aux petites cantines de Vaise, un restaurant où l'on fait la cuisine et la vaisselle, et surtout, on fait tout ça ensemble. Cette association propose de rassembler les gens autour d'un repas commun, un repas solidaire, respectueux de celles et ceux qui le préparent et le dégustent, et aussi respectueux de l'environnement. Le prix est libre, à partir de 1 euro. Et il est aussi indiqué que si vous donnez 10, cela rembourse les frais de bouche. Si vous donnez plus, vous soutenez l'association. Pour l'instant, il y en a 3 dans Lyon, des petites cantines, et il en existe aussi à Lille et à Strasbourg, et vous retrouverez bien sûr les adresses sur le site de Transistor. Ce dimanche de septembre, nous avons aidé à préparer le repas aux petites cantines avant de tous s'installer autour de 2 grandes tables en bois. Il y avait plein de plats différents sur la table, un carrot cake, du muesli, des pancakes moelleux avec du chocolat encore chaud qu'on venait de faire fondre, et des quiches, et aussi le fameux caviar d'aubergine. À ma gauche, il y avait un couple avec leur fille qui devait avoir entre 6 et 7 ans, à ma droite des retraités, et en face de moi 3 étudiantes. Au fil des discussions, j'apprends que certaines sont déshabituées et que d'autres viennent là pour la première fois. Quand plus tard je prends le temps de discuter avec Lucie, je lui demande qui elle reçoit le plus souvent dans sa cantine.
Alors, il y a des gens du quartier, mais beaucoup aussi de gens qui viennent de Lyon ou ailleurs de Lyon, Écully, Tassin, Dardy. On accueille tout le monde, il y a beaucoup de salariés le midi. Le week-end, du coup, c'est plus des familles. On a un partenariat avec AG2R La Mondiale qui finance des repas sur certaines dates pour les personnes qui ont plus de 60 ans. Donc là encore, c'est un autre public. On accueille beaucoup de BDE, d'étudiants, donc là encore un autre public. On a la chance d'avoir un campus à côté de la cantine. Donc il peut y avoir des étudiants qui viennent le midi manger. Et ceux qui viennent cuisiner, il y a des habitués, il y a des mamans qui ne travaillent pas ce jour-là, il y a des personnes qui sont en reconversion, des grands-mères, beaucoup de personnes aussi qui sont tout juste à la retraite et qui viennent nous aider.
Parce que du coup, vous faites des repas tous les midis de la semaine ?
On fait des repas tous les midis, sauf le lundi et le samedi. Okay. Et on ouvre aussi 3 soirs, mercredi, jeudi et vendredi soir.
Ok.
Lucie m'explique que ce qu'elle aime dans son métier, c'est rencontrer des convives au profil diversifié et de voir que des liens se créent pendant le repas. Le jour où j'y suis allée, par exemple, elle était super contente de voir que Ramiz, un réfugié albanais, était bien entouré et intégré par les autres. Si le public est diversifié grâce au prix libre, autant en âge qu'en classe sociale, celles et ceux qui se retrouvent là ont finalement un peu tous des attentes communes, prendre un repas dans une ambiance calme et familiale, prendre son temps surtout et bien manger. Et comme ici, on parle surtout de nourriture, j'étais curieuse de savoir d'où elle venait.
Donc, tous nos fruits et légumes, une partie de nos fruits et légumes viennent de Franck, qui est un agriculteur des Monts Lyonnais, donc qui est en agriculture raisonnée. Et l'autre partie viennent des invendus de la Vie Claire, que nous récupérons tous les jours. Mais ça ne représente que 10% de notre approvisionnement global. Après, tout ce qui est frais, donc fromage, crème, lait... ça vient de chez Biocop de Valmy. Et tout ce qui est épicerie sèche, donc riz, pâtes, lentilles, farine, sucre, etc., ça vient d'une asso qui s'appelle VRAC, vers un réseau commun d'achat, je crois que c'est ça le nom en entier. Et du coup, ils nous approvisionnent en VRAC, donc zéro déchet. Et voilà, en fait, on essaye au maximum d'être de saison, de faire des repas de saison en circuit court, zéro déchet. On fait le compost aussi.
Vous mettez où ? Vous avez un jardin ?
Alors, il y a un compost. Du coup, on a des gros bidons qui sont derrière la cantine. Et il y a un convive qui fait partie d'un jardin agricole qui est à Grange Blanche, donc juste dessus. Et il récupère notre compost et il l'utilise pour le jardin agricole. Voilà. Et sinon, il y a un jardin en permaculture qui s'appelle Permalab, Ostara Permalab, qui est juste derrière le mur, là. Et c'est un grand jardin, et du coup, eux, on prend nos herbes aromatiques chez eux, par exemple, tout ce qui est menthe, basilic, ça vient vraiment de juste derrière, quoi. Et ça nous arrive quand il nous manque quelque chose de prendre chez eux. Ils produisent pas encore assez pour qu'on s'approvisionne chez eux à la place de Franck. Parce que vraiment, c'est des quantités énormes. Donc voilà. Mais sinon, au début, on fonctionnait aussi avec eux pour le compost. Mais pareil, on fait un compost. On remplit trop vite quoi, le compost pour eux.
Et peut-être pour un partenariat futur.
Ouais.
Aux petites cantines de Vez, j'apprends qu'on peut payer en gonettes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la monnaie locale lyonnaise, complémentaire à l'euro, qui a été créée en 2015 et qui peut être utilisée dans les commerces partenaires de la région lyonnaise. Vous pouvez trouver une carte où ils sont tous répertoriés sur le site de la Gonette. Cette monnaie permet de maintenir l'argent sur le territoire, de gérer une monnaie de manière démocratique et de soutenir les professionnels qui l'utilisent dans leurs projets d'investissement. En gros, son objectif, c'est de donner un nouvel outil monétaire aux habitants et habitantes pour mieux contrer les dérives du système financier actuel. En fait, quand on y pense, le concept des petites cantines, il n'est pas révolutionnaire, il ne remet pas en cause un système, il ne bouleverse notre façon de consommer. J'ai surtout l'impression qu'il tend simplement à réunir les gens qui essayent de vivre un peu plus comme ils l'aimeraient vraiment, c'est-à-dire en sachant d'où vient leur nourriture, en la partageant avec des voisins, dans un monde qui, lui, nous pousse à faire le contraire. En faisant la vaisselle avec les autres convives, je comprends qu'on va aux petites cantines pour donner de la valeur au quotidien et pour prendre son temps pour les choses simples, comme cuisiner ou faire connaissance avec des inconnus. Et tandis que je m'éclipse, dimanche dernier, la plupart des gens restent ici pour une après-midi jeu de société. Mais si vous n'aimez pas trop les jeux de société et que vous préférez l'aventure, restez avec nous car dans le studio de Transistor, il y a Julie qui est venue partager avec nous son expérience du voyage et son rapport à la Terre. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors Julie, quand je t'ai rencontrée, t'avais un sac à dos avec plein de drapeaux cousus dessus. Je t'ai demandé ce que c'était et tu m'as dit « c'est tous les pays où je suis allée ». Ça en faisait déjà un paquet, il y en avait plusieurs en Europe comme le Portugal, l'Espagne ou l'Allemagne. Et il y avait d'autres destinations plus lointaines comme la Corée, le Népal, le Vietnam, le Cambodge et le Maroc. Alors du coup, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu voyages et pourquoi, une fois que tu es revenue, t'as encore envie de repartir ?
C'était une très belle question. Il y a beaucoup de motivations qu'on partage avec la grande communauté des voyageurs. Il y a ces motivations, cette quête sensorielle, le voyage qu'on appréhende à travers soi. Mais il y a aussi l'envie de découvrir une autre culture et cette richesse que ça nous apporte. Ça nous construit, on apprend à se déconstruire, à partir à l'aventure. Et c'est comme si le cœur léger et parfois lourd me disait d'aller trouver ma zone de confort dans l'inconfort, justement, et dans l'inconnu. J'adore appréhender de nouvelles questions, de nouveaux périples. Et du coup, c'est devenu comme une addiction qui fait que j'aime casser cette routine et partir et repartir.
Alors, tu as parlé d'addiction et de routine. Est-ce que quand on voyage, c'est toujours une fuite ? Ou est-ce qu'on va plutôt aller s'enrichir là-bas pour mieux revenir ?
Alors une fuite, j'appréhende pas ça comme ça. C'est plutôt une envie. Et puis il y a toujours le retour qui est un petit peu dur parce que on est bouleversé une fois là-bas, on apprend beaucoup. Mais partir, c'est loin d'être une fuite, c'est aussi un défi. Et moi, je voyage beaucoup seule, justement. Et du coup, c'est aussi une fierté.
Ouais. Oui, bah c'est compréhensible. Surtout que tu es une femme. Comment est-ce qu'on voyage quand on est une femme, plus particulièrement ? Est-ce qu'on te dit « Oh là là, tu voyages seule ?» Tu fais du stop toute seule, tu rencontres des inconnus, est-ce que c'est pas dangereux ?
Alors on voyage comme tout le monde, on voyage simplement, on voyage dans la bienveillance parce que si je prends mes expériences en Asie, on apprend à appréhender les gens dans leur ensemble et on prend beaucoup du bien qui nous donne, parfois le mal, mais on essaie de le laisser de côté et du coup mes expériences ont toujours été bénéfiques et je suis jamais mal tombée, on va dire. Et être une femme, bah c'est aussi peut-être on se laisse porter oui, par la bienveillance des gens, comme je disais, il y en a beaucoup. Et il y a peut-être plus d'aide, les locaux viennent nous voir, les locaux nous proposent de nous héberger. Et le voyage, c'est aussi apprendre à ne pas se méfier de tout. Et j'en tire que de bonnes expériences. Et il faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui voyagent seules. Et dans les auberges, on en rencontre beaucoup et on crée ces communautés de voyageurs, voyageuses. Ouais.
Et du coup, tu as parlé du contact avec les locaux. Est-ce que quand on voyage, tu penses qu'on cherche à s'intégrer, à se fondre dans l'espace qu'on découvre ? Ou est-ce qu'on souhaite plutôt profiter de ce statut d'observateur extérieur, du fait qu'on est ici seulement pour un temps provisoire ?
Bah, c'est aussi une des motivations, se fondre dans la culture, se plier aux règles et justement là c'est se déconstruire et sortir encore une fois de sa zone de confort car les cultures sont si différentes quand par exemple dans les pays d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est ou même orientale et du coup ouais c'est apprendre à respecter ces cultures, ces personnes et découvrir une nouvelle religion. Du coup, c'est vrai que le voyage, ça passe aussi par une appréhension de, une oui, on appréhende l'histoire du pays et des fois, on prend des énormes claques parce que, par exemple, quand je suis arrivée au Cambodge, je savais pas du tout le contexte de guerre qu'ils ont vécu, enfin avec les Khmers rouges et tout, et il a suffi d'une visite d'un musée pour me chambouler et me dire mais comment ces cultures, ces peuples diffusent un message de paix via la religion, via le bouddhisme, etc., qui n'est pas d'ailleurs la religion majeure, mais il y a beaucoup de bouddhistes. Et comment ils font pour vivre dans l'entraide, la bienveillance, après avoir vécu cette période si sombre. Et aussi, donc là, on passe plutôt du côté de l'observation. Et au Cambodge, au Vietnam, des colonies, des anciennes colonies françaises, c'est vrai que au début, ça a été dur pour moi de me dire est-ce que je vais vraiment m'intégrer ? Est-ce qu'il y a encore ce passé colonial ? Et du coup, bah, pas du tout. Enfin, les gens étaient très, 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 très heureux de m'accueillir et certaines personnes très âgées parlaient le français même. Donc c'est une forme, ouais, d'observation, d'appréhension de la culture et en fait d'intégration au final.
Alors, il y a différents moyens de s'intégrer quand on voyage. Toi, par exemple, au Népal, tu as fait le choix de travailler 15 jours dans des rizières. Est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi tu as fait ce choix ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et pourquoi tu vas peut-être retourner au Népal ?
Oui, du coup, j'ai fait un petit service d'éco-volontariat au Népal, dans un village perché dans les montagnes au pied de l'Annapurna, un sommet qui culmine à plus de 7000 mètres. Donc, c'était assez impressionnant. Là, on se remet en cause et l'humain est tout petit. Et j'ai fait ce choix justement pour me fondre dans cette culture qui m'intriguait énormément et appréhender les pratiques agricoles. Et du coup, j'ai pu travailler dans les rizières. C'était assez incroyable. Et aussi comprendre le fonctionnement des sociétés, des ethnies locales. Comprendre, par exemple, la place de la femme dans les villages, la cuisine, etc.
Ok, bah merci beaucoup Julie de partager tes expériences de voyage avec nous. Et juste avant qu'on se quitte, pour vous donner envie de repartir dans un prochain épisode, je voudrais vous faire écouter une voix.
Hola, eu sou Eli, e hoje eu vou te falar sobre minha experiência no Brasil e minha vida durante 9 meses nesse território foda maravilhoso.
Alors cette voix, c'était celle d'Eli qui est partie vivre 1 an au Brésil et qui est revenue en juin dernier avec plein d'histoires à partager. C'est lui qu'on écoutera dans un prochain épisode des Murmures de la Terre, mais tout de suite, on a rendez-vous avec le dictionnaire présenté par Phileas.